Bonjour les joueurs, nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Caducé. Salut Caducé.
Salut Elodie.
Comment ça va dans ce quatrième jour de festival?
Ça commence à faire un peu long. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais ça va, on tient le coup.
Et oui, parce qu'on attaque une belle après-midi d'interview et nous accueillons Johan Servet, auteur de jeux et scénariste et plein de choses encore que nous développerons pendant l'interview. Bonjour Johan et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bah ouais, bonjour à toutes les deux. Ouais, merci à Proxy Jeux de m'inviter, c'est un plaisir. Je viens depuis plusieurs années au Festival de Cannes et puis je vois souvent vos micros et je me dis peut-être qu'un jour je serai assis là. Et là, c'est le cas.
Alors, avant de commencer l'interview, on a pour tradition de proposer une série de questions fil rouge à tous nos invités. Est-ce que t'es prêt à l'exercice?
Parfait.
Pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Il y a quand même quelque chose. C'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années qui s'appelle Petit meurtre et fait divers, je crois. Et oui. Ça, c'est vraiment une pépite. Alors, ça se joue pas avec tout le monde, mais on a des groupes de potes où quand ça joue, il y en a toujours un ou une qui se pisse dessus, quoi. Je sais pas si on l'a dans le party game, mais en fait, je chiterais ça. Ça me plaît.
Quel est l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Fédération, peut-être. M'a fait fumer un peu, ouais. Après, il y en a beaucoup, hein. Unlock m'a fait fumer le cerveau parce que j'ai fait plus que le jouer, quoi. Et ça, je pense
on va probablement en reparler.
Ok.
Voilà. Restez à l'écoute.
Ouais.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
C'est rare que je ne veuille pas rejouer un jeu. Je pense que je joue vraiment à tout type de jeu. Ça m'arrive rarement de se dire ce jeu-là, j'ai pas envie d'y rejouer, quoi. Parce que s'il y a le groupe qui veut le jouer, s'il y a l'ambiance pour le jouer, s'il y a les conditions pour le jouer, c'est rare que je dise non, quoi. Quel que soit le jeu. Donc là, pas de réponse, je pense.
Pas de souci, c'est une réponse. Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Il y en a plein. Peut-être que je citerai This War of Mine, qui est un jeu de gestion, qui a peut-être des défauts parce que beaucoup de choses, beaucoup de matériel, enfin voilà. T'en rêves la nuit, t'y repenses après. Ça fait partie des jeux narratifs qui te laissent des traces, quoi. Ce que j'aime bien.
Et pour terminer, quel est l'as d'or du jeu le plus moche?
Oh! Je pense qu'il y a des jeux qui sont moches, mais le fait qu'ils soient moches leur sert. Parce qu'en fait, je pense que ça a une qualité de... Par exemple, il y a eu un débat sur est-ce qu'il fallait changer les illustrations de Pray Another Day.
Oui, ouais, c'est ça.
Toutes les deux sont bien, mais le premier, qui était étiqueté moche, marchait vraiment très bien, quoi. Moi, personnellement, je l'aurais gardé, mais... Donc au final, c'est relatif, quoi, ce qui est moche.
Toutes les réponses sont cool à prendre et...
Faut que ça s'en...
C'est déjà une réflexion, donc merci beaucoup. Et donc, on va passer à l'interview. Tu es le scénariste, notamment, de No Sideshow dans Unlock Timeless Adventure.
Ouais.
Et aussi l'aventure, le tour du monde en 80 minutes dans Unlock Mythic Adventures.
Que j'ai fait avec Jérémy Frel, ouais, un ami de la fac, un ami d'enfance, quoi. Et
enfin, de Carta Aventura Hollywood.
Donc, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ce travail de scénariste?
Ouais, c'est ça. Je suis plus scénariste qu'auteur de jeu, au final, en fait. Je fais principalement du jeu narratif. Il y a un débat, mais tous les jeux sont narratifs. Mais dans les jeux qui racontent des histoires avec des gros récits, dans la liste, il y a ça. Il y a Carta Aventura et Unlock. Quand j'ai commencé à vouloir passer l'édition, c'est vers ça que je voulais aller, quoi. Donc, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Donc, ça permet de rentrer dans un créneau où il n'y a pas grand monde. T'aperçois avec 10 ans de recul que c'est vraiment, s'il y en a pas beaucoup qui le font, c'est parce que c'est hyper chronophage, c'est hyper difficile à équilibrer parce que ça demande beaucoup de texte, ça demande beaucoup de techniques que j'avais pas. Je raisonne beaucoup par l'erreur, donc c'est un type de jeu qui est chronophage, mais qui est passionnant à faire en fait.
Comment tu es arrivé à te mettre dans les chaussures d'Unlock qui avait déjà plusieurs boîtes?
On a joué la première boîte, comme beaucoup, ça a été une sacrée claque. Et puis, il y avait les escape games qui arrivaient et je trouvais ça un peu dingo. Donc, j'en avais créé une dans mon garage. Et c'est un peu la période où j'avais envie de passer l'édition. Ça faisait plusieurs années que je regardais fort le milieu, avoir des vidéos tous les jours. J'ai fait des études de médecine. Et en médecine, on commence les études à étudier les bouquins avant de faire autre chose. Et j'ai fait un peu ça. J'ai beaucoup regardé Trick Track, beaucoup regardé ce qui se faisait avant de commencer à faire des protos pour gagner en efficacité puis savoir ce qu'il fallait faire. Et j'avais cette volonté depuis longtemps d'écrire un livre. Je me suis dit qu'on pouvait le faire par le jeu. J'ai d'abord commencé par Guilty, qui était un jeu d'enquête. Mais comme j'avais pas d'expérience dans le milieu et je me disais que c'était compliqué de passer l'édition, j'ai pensé que ce serait plus facile d'écrire un scénario pour un jeu existant. Une fois que j'aurais fait ça, je pourrais passer l'édition avec mon jeu d'enquête, quoi. Mais en fait, j'ai quasiment signé les deux en même temps, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un nom ou quelque chose pour passer dans l'édition de jeu aujourd'hui, contrairement à peut-être d'autres milieux créatifs. Je crois que c'était après un Cannes ici, je me suis dit, allez, go, j'y vais à fond. Et j'ai passé peut-être un mois dans ma chambre à faire absolument que ça. À me dire que j'avais qu'une chance, donc j'ai codé l'appli en JavaScript, j'ai fait je sais pas combien de tests, j'ai passé un temps de fou. Et puis quand ils l'ont pris, ben c'était un peu dingo, ouais. Donc j'ai commencé comme ça, ouais. J'ai l'impression d'avoir gagné les Jeux Olympiques après avoir commencé le sport. Puis après, ben t'as envie de continuer, donc j'en ai proposé un autre, et puis voilà.
Et tu dis que les deux ont été signés en même temps, Guilty et Unlock. Quasiment. Et Unlock est arrivé vraiment plusieurs années avant Guilty, si je dis pas de bêtises.
Guilty est arrivé plusieurs années après.
Oui, ouais. Pardon.
Oui, voilà. Oui, parce que ben là c'était mon jeu, donc il y avait besoin de développer comme il faut, il y avait besoin de beaucoup de tests, il y avait besoin de... Et puis tout de suite, Yellow a voulu une gamme, donc ils ont voulu qu'il y ait des scénarios déjà quasi finis pour tout lancer. Quand t'écris un scénario d'un jeu existant, il y a beaucoup de travail qui est déjà fait en amont, en fait. T'arrives et tu profites un peu du cadre qui est déjà fait, et puis essayes de l'écarter, mais tu profites de tout ça. Et Guilty, c'était vraiment quelque chose qui était quand même très compliqué à faire, avec beaucoup de recherches sur certains scénarios, beaucoup de travail de scénariste, pur comme quand tu fais un film, en fait. De repérage des lieux, de... Voilà.
Sur Guilty, t'as vraiment le travail d'autorat, ouais. Plus de scénariste, qui impliquait d'inventer et de développer des mécaniques.
Ouais, même s'il est très léger. Après, c'est dans les détails, en fait. Très vite, il y avait le mécanique de base avec un deck de temps qui avance. Mais après, il y avait beaucoup de travail d'ergonomie en relation avec l'éditeur. C'est l'éditeur qui gère plutôt ça, mais plein de virgules, quoi. Comment on peut organiser les choses pour que l'expérience soit la plus pure possible. Et ça demande énormément de temps.
Et tu parles de la timeline, du décompte de ce temps-là qu'on ouais. Adore tous.
Ok.
C'est une idée qui t'est venue après, c'est arrivé dans un second temps ou cette idée de timeline, tu l'avais quand même dès le départ?
Il y avait dès le départ. En fait, l'idée, c'était... En fait, ça a commencé quand je suis parti avec mes frangins faire un grand trek au cercle polaire. On marchait pendant 10 jours dans la neige et on avait des jeux dans le sac. Donc en juin, cercle polaire, il fait jour tout le temps, donc on jouait la nuit et on jouait à Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est un jeu complètement fou. Je me trimballais les Sherlock Holmes dans le sac, quoi. Et c'est là qu'est venu en marchant l'idée de faire un jeu d'enquête avec des cartes. On est en 2015, ça n'existait pas encore, Détective pas sorti, il y avait rien qui était sorti, il y avait que ça. Et donc l'idée, c'était qu'est-ce que doit être un jeu d'enquête avec des cartes, qu'est-ce que peut être amélioré dans le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. Et donc l'idée, c'était pas d'avoir d'appli, c'était pas d'avoir voilà. Et dans la liste il y avait c'est cool quand tu sens que tes actions elles ont une conséquence et puis que le temps avance, quoi. En marchant, c'est vraiment dès le début que le deck de temps est arrivé. Mais au tout début, il n'y avait pas de texte derrière le temps, parce que l'idée, c'était de faire peut-être 3, comme j'étais un peu formaté avec Unlock, d'avoir une boîte avec 3 scénarios, et le deck de temps était un peu le deck qui correspondait aux 3 enquêtes, en fait. À partir du moment où Yellow a dit non, ça sera une boîte où il y a un seul scénario, c'est dit, autant utiliser les rectos, les versos, et donc là, ça a découlé la suite, ouais. Donc les grosses bases, elles étaient là d'emblée. Je crois qu'on a fait le trek en juin, en décembre, j'avais quasiment la structure globale de tout le scénario qu'il y a aujourd'hui. Il était jouable et quand je l'ai montré à Yellow en 2017, parce qu'il y avait quand même un peu de boulot encore derrière, quand ils l'ont pris, après, tout le temps qui a suivi, c'était les 5% qui font que faut que ce soit nickel pour tous les groupes. Enfin, faut que, ouais. Les 5 derniers pourcents de travail, ils ont pris 4 ans.
Et à ce moment-là, quand tu le présentes à Yellow, tu as donc la mécanique, ouais. L'originalité de cette mécanique-là, ouais. Et tu as déjà ton premier scénario qui est constitué.
Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'était pour commencer d'avoir quelque chose de rassurant, avoir un huis clos dans une prison, c'était quelque chose qui était facile parce que chaque pièce avait une symbolique, en fait. Donc si tu vas visiter des toilettes dans une prison, t'attends à certaines choses, c'est calibré, quoi. Alors que si tu mets des villes ou des trucs, tu sais pas trop ce que tu veux chercher là. Donc ça a été d'un point de vue game design plus rassurant. Comme au départ je savais pas si j'allais passer l'édition ou quoi, j'avais localisé ça à Rennes dans une prison pour femmes. Et c'est Yellow qui a dit, Rennes, c'est pas ouf pour l'export, donc on va passer ça à Houston et on a localisé ça. Et ça a été un peu plus tard, je dirais en 2019, avec l'arrivée de Mathieu Rivero, parce que il y a beaucoup de textes dans ce jeu pour l'immersion et tout ça. Mes textes n'étaient pas encore au niveau, toi. Donc On a demandé à Mathieu Rivero, qui est un auteur, enfin qui est, ouais, qui travaille dans le jeu depuis longtemps, qui a déjà écrit beaucoup de bouquins et qui a une plume incroyable. Donc il est rentré là, il a relocalisé à Houston, il s'en est un peu occupé de relocaliser pour le, ouais, plein de choses, et on a travaillé ensemble pour que les textes soient les plus intéressants, quoi.
Et en plus, avec Houston, du coup, t'embarques toute l'imaginaire qu'on a pu avoir dans Orange is the New Black, par exemple.
Un petit peu, ouais. Pareil, ça permet d'embarquer un peu plus tout le monde. Il n'y avait pas que Orange is the New Black, il y avait des séries, il y avait des Jailbird, je crois que ça s'appelle, sur Netflix, qui est plus un docu-fiction, enfin un documentaire, et tu vois que ça ressemble vraiment à ça, quoi. Donc, oui, on pense à celui-là, mais globalement, ça se passait un peu comme ça. Et après, on s'en est très vite dégagé. Je me rappelle de des fois avec le chef de projet, on passait des heures à essayer de savoir combien de jours tu passais en détention pour tel problème, ou enfin savoir comment ça se passait vraiment. Après, on a très vite cherché à coller au réel plutôt qu'à une fiction imaginaire, quoi. Et c'est ce qui prend beaucoup de temps dans Guilty aussi, c'est d'essayer d'être chercher une vraisemblance, chercher. Alors, pour une prison à Houston, c'est un peu plus facile, mais après, on est allé sur des scénarios beaucoup plus historiques. Et ça a été hyper plaisant, parce que tu vas en famille à Monaco. Donc, Monaco, c'est plutôt sympa, mais tu vas rencontrer les archivistes du palais, tu vas voir chaque lieu, tu vas essayer de construire ta narration avec ce qu'est le lieu. Et le troisième, c'était sur Fontainebleau, et ça, c'est Jérémy et Elliot Frel, donc Jérémy qui m'avait accompagné sur Unlock, qui ont pris la main sur le scénario à Fontainebleau en 1543. Et donc, ils ont fait beaucoup de travail sur Dumas, sur Fontainebleau, sur comment ça se passait à l'époque. Donc, il y a un énorme boulot de recherche qu'on avait un peu l'habitude sur Carte Aventura, mais sur... puis c'est quelque chose qu'on adore faire, donc on le voit pas comme du boulot, comme des contraintes, on le voit comme un plus, quoi.
Comment réagissent les archivistes de Monaco quand t'arrives en disant « je viens me renseigner pour faire un jeu de société » ?
Déjà, ils disent « c'est... quel jeu vidéo ?» Quand on leur dit que c'est des cartes, bah, on a les réflexes de... c'est genre un Monopoly, donc ça c'est encore à ce niveau-là. Mais après, quand on leur montre les illustrations qui avancent, quand on... En fait, je pense qu'ils sont un peu sollicités des fois pour des films, et donc ils ont un peu l'habitude d'être sollicités sur des fictions, des choses comme ça. On avait peur qu'ils mettent leur veto sur certains trucs, ou même par exemple l'hôtel Hermitage avec un symbole qui leur est propre, on les a contactés pour être sûr qu'on ait le droit, enfin... Et en fait, ils sont tous à fond, en fait. Et ils disaient qu'ils mettraient le jeu en vente à la boutique du palais. Ils nous ont beaucoup aidés, en fait. Mais même sur des détails, le t-shirt en 55, en été, c'est pas cette couleur. Donc, bon, après, on a dû mettre un peu les curseurs, parce que des fois, l'illustrateur a déjà fait les choses et c'était au dernier moment, tout ça. Mais globalement, ils nous ont vraiment poussé pour que ça soit vraiment véridique, quoi. Pour Fontainebleau, c'était un peu différent, parce que l'époque, elle est beaucoup plus ancienne. En plus, le palais, il avait beaucoup changé. Donc, ils nous ont dit au départ, faites ce que vous voulez. De toute façon, on sait pas trop sur cette époque comment était le mobilier et tout ça. L'illustrateur a commencé à faire plein de trucs. Et puis là, ils ont dit, ah ben non, mais ça, c'est mobilier de Napoléon, on peut pas le mettre. On pouvait faire ce qu'on voulait, mais pas vraiment, quoi. Donc là, ouais, t'embarques des gens dans des histoires ou dans des concepts qui... Ouais, t'embarques tout le monde, en fait. Ça, c'était assez fou, surtout sur les débuts, quoi. Parce que l'illustrateur, en fait, tu le contrains à faire aussi des recherches. Toi, t'inventes une petite histoire en disant, tiens, si on avait ça comme thème à telle époque. Et en fait, derrière, tu vois que tout le monde te suit. Enfin, ça, c'est assez fou, hein. Dans l'édition, c'est assez dingo, quoi.
Toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit que ça colle avec la réalité, et de pousser vraiment tes recherches pour que même des personnes qui s'y connaissent dans le domaine qui va être abordé dans le jeu puissent se dire « Ok, il s'est renseigné », enfin, qu'on le sente.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui a l'air d'être important pour toi.
Ouais, on donne un peu une passe, on donne l'autorisation de faire une histoire sur quelque chose, et tu te dis, il y a des spécialistes de ce que tu racontes qui vont jouer. Et moi, je suis médecin, et ça arrive souvent qu'on évoque des trucs médicaux, en fait, dans les jeux d'enquête ou autres, qui sont complètement illogiques, même dans des séries comme Urgence ou tout ça. Et des fois, ça te fait un peu sortir. Donc déjà, tu te dis, ils auraient bossé un peu plus, ou ils auraient questionné, ils auraient pris le temps de faire les choses bien, ben ça aurait été encore mieux, quoi. Donc tu te dis, j'ai pas envie de faire la même chose. Donc t'as envie que le spécialiste au monde de Catherine de Médicis, quand il joue au jeu, ils se disent waouh, ils ont bossé le truc. Rien que pour lui, ça justifie toutes les heures, quoi. Et deuxième truc, c'était qu'on est sur un jeu d'enquête expert, qui est quand même 4 heures où les gens ils se cassent la tête. Tu connais pas le public, il y en a ils adorent ça, et il y en a qui aiment juste les polars. C'est quand même le grand écart dans les niveaux de gens qui jouent à Guilty. Et je l'ai remarqué, moi, sur des scénarios qui sont faciles, par exemple d'exit. En fait, t'es content parce que t'as roulé dessus, mais t'as vu des petits trucs qui t'ont plu et il t'en sort quelque chose. Et je voulais que tu sois expert ou pas expert, que tu galères ou pas, et ben à la fin, il t'en sort un truc. En plus, tu fais de la narration et je voulais vraiment de la narration poussée, quoi. Je voulais que ça soit ressemble presque à une série ou un film et qu'à la fin, tu te dises, alors, c'est un peu moins ambitieux sur Houston, sur la prison, mais après, je voulais vraiment que les gens, ils se disent, ah, il m'a embarqué dans un truc, j'ai l'impression d'avoir vécu un film. Ça serait en film, ça serait pas ridicule. Donc voilà, c'était une volonté de pas trop se foutre de la tête des gens et de faire quelque chose qui soit assez cohérent. Et ça permet que si les gens ils roulent dessus ou pas, ils en sortent quelque chose. Plutôt que refaire des enquêtes dans des manoirs avec des héritages et des adultères. Je voulais vraiment essayer de créer des trucs qui soient moins convenus, quoi. Et en plus, par exemple, ça a été le cas sur Carte Aventure 1, où on a fait un scénario sur les hobos, sur Charlie Chaplin, sur Hollywood en 1920, sur tout ça. Et en fait, t'aperçois qu'en faisant la documentation, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Donc en fait, t'as pas besoin d'aller chercher des trucs de fou, des arcs narratifs pas possibles. Puis on le voit avec l'actualité, en fait, il se passe des trucs qui sont complètement... Tu vas juste puiser des choses qui se sont passées. Et la documentation, elle t'écrit le truc, quoi, en fait. Quand on a fait quelque chose sur Chaplin, la vie de Chaplin, les films de Chaplin, il suffisait de puiser dans le truc, quoi, et donc ça t'enlève du boulot de quelque part aussi.
Et après Fontainebleau, il y en a d'autres de prévus?
On verra un peu. Là, il y en a eu trois. On a la volonté de Yellow, c'était d'en faire trois et d'en avoir trois un peu écrits ou pas que je les lâche au milieu de la gamme. Et c'est sûr que je les lâcherai pas, c'est sûr, parce que j'adore faire ça. Donc des idées, il y en a au moins 5-6. Le premier, c'était 2015. Il y a Houston 2015 parce que je l'ai écrit en 2015. Il sort en 2023. Donc c'est pas un jeu. Tu fais, tu le laisses et il dort chez l'éditeur. Ça a été du boulot tout le temps, quoi. Et il t'occupe, c'est de la charge mentale. Tu le retravailles, tu le fais tester. Ça. Chaque test, ça amène des heures et des heures de modification. Monaco, encore pire. Il y a des effets, en fait, dans Monaco qui sont hyper durs à équilibrer. Et donc ça a demandé énormément de boulot. Donc là, maintenant, il va falloir voir si le public suit. Parce que le jeu d'enquête, ça reste un marché de niche. Et le jeu d'enquête expert, on est dans le marché de niche, de la niche, de la niche. Donc il faut que Yellow me suive sur l'idée que, pas des ventes de Sky Joe, quoi, hein, Guilty. Donc voilà. Et sachant qu'il y a beaucoup de textes. Et donc l'export est frileux là-dessus parce que ça demande beaucoup de prix de trad, de tout ça. Et que les jeux d'enquête, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Si tu veux faire déjà tous les jeux d'enquête existants, faut quand même y passer un peu de temps. Donc voilà, la question de la pertinence de continuer la gamme, elle se pose là aujourd'hui, on verra. Mais ça, on n'a pas à la main, ça dépendra un peu des joueurs et des gens qui... voilà. Et puis le jeu narratif aussi, et bon, le monde du jeu, on se pose beaucoup de questions, mais le jeu narratif avec tous les jeux qui se revendent, enfin l'occasion, et heureusement parce qu'ils sont joués qu'une fois, donc autant qu'ils servent plein de fois, mais ils sont joués en bar à jeu, ils sont joués à la ludothèque, et donc le ratio entre ce que tu vends et ce qui est joué est quand même pas le même. Quand tu le mets en contrebalancement du nombre d'heures que tu y passes, ça se pose la question, quoi. Donc moi ça va parce que je suis médecin généraliste à côté. Enfin, je peux passer 40 heures par semaine en bossant les jeux et en faisant des gardes le soir, la nuit, la nuit, les week-ends. Enfin, j'arrive à m'organiser pour durer sur le long terme, mais il faut que ce soit quand même un peu viable, quoi. Donc, mais bon, la volonté, elle est là. Et puis après, ce sera peut-être sur des scénarios peut-être éventuellement plus courts ou plus grand public. Yellow m'a fait confiance d'emblée en me disant, la première fois, je leur ai dit, on est d'accord que 4 heures, c'est quand même compliqué à vendre, que c'est à 13 adultes, que tout ça. Ils m'ont dit, non, on adore ça. Détective était pas sorti encore, mais ils l'avaient dans les tuyaux et il y avait une mouvance du jeu d'enquête expert. Et donc, ils m'ont suivi sur l'idée. Enfin, moi, c'est les jeux que j'adore jouer, en fait. Donc, quand toi, tu les adores, tu te dis, il y en a sûrement d'autres qui aiment ça. Mais pour le boulot que ça demande et puis l'expérience et tout ça, 4 heures, c'est quand même un peu long, quoi. On le voit en boutique, les gens que je questionne, ils me disent, les gens, ils sont à fond. Et quand je dis 4 heures, il y a un espèce de refus d'obstacle qui fait que j'aurai jamais le temps de le jouer, en fait. Passer les scénarios à plus court, ça peut être une solution. De toute façon, c'est des discussions qu'on va avoir avec Yellow et tout.
Après, ça reste aussi une caractéristique qui le distingue des autres jeux d'enquête.
Ouais, voilà. Donc, il peut y avoir des idées où c'est en deux parties, quoi. Qui se suivent un peu comme a fait Détective. Ça, maintenant, j'ai aussi d'autres projets encore plus chronophages, donc il faut que j'arrive à organiser mon temps pour au moins dormir 4 heures par nuit. Parce que...
C'est des projets dont tu peux parler ou pas trop?
Ouais, je peux en parler sans trop en parler. C'est un projet de jeu d'aventure. En fait, il découle un peu de... J'ai réussi à voir deux scénarios d'Unlock, mais il y en a aussi deux que j'ai écrits dans la suite, parce que quand t'en fais un, c'est cool, puis t'en fais un deuxième, il est pris, t'es trop content, et puis tu penses qu'ils vont tous être pris. Et puis comme j'adore faire ça, j'ai passé énormément de temps à faire le troisième, le quatrième, avec des co-auteurs et tout ça, et tu les envoies, et s'ils ont pas l'étincelle, c'est pas pris, et derrière, c'est foutu, quoi. Donc c'est pas grave en soi, parce que déjà, en passer deux, c'est fou, et puis ça peut ne pas être bon, enfin voilà. Mais moi, j'adore faire ça. Donc, tu te dis, OK, au bout de combien de temps je vais me lasser à faire des scénarios qui sont pas pris? Et une des options qui m'est venue, c'est de dire, faut que je fasse mon unlock, en fait. Faut que je fasse mon jeu d'escape. Et donc, comme pour le jeu d'enquête avec des cartes, je me suis dit, OK, avant, il y avait que Sherlock Holmes et je suis parti là-dessus à me dire, à faire ma liste de contraintes de ce que je voulais. Et j'ai fait pareil avec le jeu d'escape en me disant, OK, il y a quand même Exit et Unlock qui sont en haut de la pile. Tous les autres n'arrivent pas à survivre comme eux, quoi. Il y a peut-être la place pour un troisième, en fait, je me suis dit. Et donc, j'ai passé énormément de temps à réfléchir à ce que ça pourrait être. Pas d'appli, plus de narration, peut-être moins d'énigmes casse-tête, plus accès narration, enfin, puis tout ce que j'aime faire et tout ça. Et donc, j'ai fini par trouver, je pense, fin 2021, un concept qui était un peu une usine à gaz, qui était un peu prometteur, que j'ai poussé pour l'épurer. Et début 2022, j'ai eu quelque chose. Et donc... Globalement, c'est pas un jeu comme Unlock, c'est plutôt un jeu d'aventure narratif qui ressemble plus à l'expérience du point and click, crafter des objets, faire des choses, avancer dans une histoire. Et pareil, je voulais une histoire qui soit assez pas trop convenue, quoi, quelque chose qui soit assez poussé. Et le matériel, c'est des pièces de puzzle, mais des pièces de puzzle de 5 par 5 avec une petite mécanique avec. Et donc, c'est pas du puzzle, mais c'est juste le matériel qui est du puzzle. Et donc ça, je l'ai montré autour de moi. J'ai la chance autour de moi d'avoir pas très loin un jeune auteur qui s'appelle Bruno Catala. Et quand je lui ai montré ça, ce qu'il m'a dit quand je suis rentré chez moi, j'avais encore des frissons, quoi. En gros, il m'a fait comprendre que j'avais tiré deux as au poker et que maintenant il fallait savoir les jouer, quoi. Et que probablement toutes les maisons d'édition allaient le vouloir et qu'il fallait que je choisisse bien, quoi. Ça a commencé comme ça, ce truc-là, et pour moi, ça a tout de suite une évidence que ce soit Yellow, parce que Yellow m'avait fait énormément confiance sur Guilty. Donc Yellow m'a dit, vas-y, fonce. Enfin, il m'avait dit ça pour Guilty, il m'avait dit, vas-y, fonce, fais le jeu que t'as envie, et voilà. Et donc, je me suis dit qu'il fallait forcément que j'aille chez eux, quoi. Et puis voilà, donc maintenant, ça fait depuis 2022 qu'ils m'ont dit oui, et là, je bosse. Enfin, tout de suite, j'ai vu que c'était encore plus chronophage que Guilty, et que on n'était pas les seuls à avoir l'idée de faire des puzzles narratifs. Et la preuve, il y en a un qui a gagné l'As d'Or il y a pas très longtemps, il y en a un chez les enfants aussi qui a gagné il y a 2 ans, mais quand je l'ai signé, le mien, ils n'existaient pas. Et donc j'ai pas mal de projets où tu te dis comme quand tu bosses à côté, t'arrives pas à les avancer aussi vite qu'il faut, parce qu'il y a je sais pas combien de jeux qui sortent par mois, donc il faut de toute façon rusher pour pas se faire doubler. Et donc là, j'ai complètement arrêté de bosser comme médecin et j'ai consacré tout mon temps quasi à ce jeu-là depuis 3 ans. Et donc, ça m'occupe pas mal. Comme tu disais, j'adore faire ça. Faire des scénarios d'unlock, c'est fou, quoi. En gros, le dimanche soir, j'ai trop hâte d'être le lundi matin pour attaquer. Et tellement hâte que souvent, j'attaque tout de suite le dimanche soir.
Le dimanche soir.
et voilà, donc je bosse ça depuis 3 ans. Et là, et pareil que sur Guilty, tu vois qu'il y a du monde qui est embarqué, il y a les illustrateurs, il y a Emilien Rotival qui bosse dessus depuis 1 an et demi, ce qui fait c'est complètement fou. Sur une autre boîte, il y a Noémie Chevalier, je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, mais Noémie Chevalier c'est une queen, quoi, c'est ce qu'elle fait, c'est
sur Courtisan est incroyable.
Puis Emilien, pareil, là je l'ai rencontré tout à l'heure pour la première fois, ça fait 1 an et demi qu'on bosse par Yellow interposé, et c'était trop un plaisir de le voir et de lui dire merci, parce que c'est un boulot en plus, c'est un jeu qui est très visuel, qui dépend beaucoup de ça en fait. Si l'illustration marche pas, ça marchera pas, et il y a des tests, et derrière on va te faire demander de rechanger de tout ça, donc je suis trop content, moi, de ce qui se passe, quoi. Je viens pas à Cannes pour signer des jeux, parce que en fait ceux que je signe, ils me prennent 3 ans de boulot, donc je fais ça tous les 4 ans, mais je viens là pour retrouver de l'énergie, pour continuer l'année à bosser comme un fou dans ta chambre, essayer d'avancer les projets qui traînent, quoi, parce que faut être motivé pour bosser un jeu de Guilty pendant 4 ans, le même scénario, quoi. Pas s'épuiser, et venir à Cannes, c'est une façon de se reprendre de l'énergie, quoi.
Et donc, tu parlais tout à l'heure que tu avais rencontré, enfin, que tu avais parlé avec Bruno Catala, donc tu avais coédité un jeu avec lui.
Ouais.
Et là, on a vu ton nom sur une autre coédition qui est That's Not Hat, et j'avoue qu'on a été un petit peu surprise de voir ton nom sur cette boîte.
C'est vrai qu'il n'y a pas quand beaucoup de textes et de recherches.
On a fait...
Il y a un homonyme.
Non, mais ils se sont trompés, il y a une erreur.
Les deux, c'est une histoire un peu folle. Ouais. Le fait de t'es au café chez Bruno Catala. Donc déjà, rien que ça, c'est un peu fou. Après, on n'habite pas très loin, on fait du vélo, on se voit. Et moi, je fais des jeux narratifs, des jeux d'escape, des jeux d'enquête. Et lui, c'est pas trop son domaine. Donc, ils mettent beaucoup sur la méthodologie, sur la relation avec l'éditeur ou sur même sur la motivation, sur plein de choses, mais pas sur le game design. Je lui montre rarement les trucs, quoi. Mais voilà, j'étais donc chez lui et il me dit Ça dit de faire avec moi la suite de King Domino ? Et là, c'est quand même fou hein, quand on me dit ça. Et donc là, j'ai fait une drôle de tête en disant « Mais pourquoi tu me proposes ça ? Ça n'a pas trop de sens. Toi, tu connais par cœur le jeu. Enfin, quel intérêt, tu vois ?» C'est... Je pense que c'est plus un cadeau qu'il me faisait, en fait, de m'emmener sur ce jeu. Et donc au début, j'ai un peu dit non, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Moi, je me disais que si un jour, on doit faire un jeu ensemble, c'est plus... moi qui vais peut-être amener une idée originale et il va m'aider à la concrétiser. Alors que là c'était un peu l'inverse. Puis au final il m'a dit mais tu te poses quand même trop de questions. Donc j'ai dit ok on essaye et puis si je suis pas pertinent ou quoi on laisse tomber, on mettra pas mon nom, je m'en fous quoi. Parce que c'est quand même, j'avais envie que ça soit un peu légitime quoi. Puis voilà, puis on a fait ça ensemble et c'était quand même vraiment fou quoi. J'ai appris énormément ouais, sur sa façon de bosser, comment il raisonne, sur même si c'est pas le même genre de jeu. Le premier Guilty m'a pris peut-être 8 ans. Deuxième, 4. Le puzzle, c'est long, mais quand même, ça rush fort. Et puis là, j'ai répondu à une commande de 404 où il fallait que je fasse... J'écrive 60 pages en un mois. Et ben après, c'est aussi grâce à toutes ces méthodologies de gens comme Bruno Catala ou autres qui t'aident à aller tout de suite à l'essentiel et à ce qu'il faut faire, quoi. Sinon, tu perds. Parce que c'est des jeux où c'est jamais fini. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un peu fou. Et le deuxième, en fait, c'est encore plus fou. J'étais invité à Itourvi, donc ça c'est pareil, c'est un petit peu fou quoi. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai l'impression d'être un joueur de district de foot invité à Clairefontaine, tu vois, t'as que des stars. Itourvi, c'est organisé par Bruno Feduti depuis une vingtaine d'années, c'est un week-end ludique en gros avec énormément de gens du milieu. Et énormément, c'est beaucoup quoi, c'est 200, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup... et tu te retrouves à des tables avec Antoine Boza en face, et enfin voilà, je dis Antoine Boza, mais enfin tout le monde, et enfin j'ai l'impression, voilà... Je mangeais en face de Platini, ouais, de Mbappé et de...
du monde ludique, quoi.
Ouais, donc je me sentais pas vraiment légitime parce que j'avais pas vraiment sorti... Enfin, voilà. Et donc, bref. Et donc, comme j'étais invité là-bas, que c'était la première fois que j'y venais, forcément, t'as envie de faire un petit cadeau à Bruno et tu te dis une bouteille de Genépi, c'est sympa, mais faire un petit jeu... En fait, c'est un truc qu'on fait souvent avec mes frangins où, en fait, toi, à Noël, tu vas t'offrir un petit truc de jeu de rôle ou un petit truc. En fait, on fait des trucs qui sont dédiés à la poubelle, en fait, mais ça nous fait marrer. Un petit Snow Dunlock à la con, thématisé. Enfin, voilà, on fait des trucs comme ça, des fois. Donc, c'était un réflexe, en fait, de faire ça. Et donc, Zas Notehat était nommé à l'As d'Or. Et donc, j'ai fait un Zas Notehat thématisé jeu de société où tu te passais des jeux et avec des contraintes et tout ça. Et puis, je lui ai offert ça. Et puis, très bien. Et voilà. Et puis, responsable de Ravensburger France, il vient me voir. Il me dit, mais c'est toi qui as fait ça. Ça m'intéresse. On voit les règles en anglais. J'ai rethématisé. J'ai envoyé les règles en anglais. Le jeu, vraiment, j'y ai pas passé beaucoup de temps. J'avoue, j'ai bénéficié du Zas Notehat de départ. Et donc là, j'ai passé une demi-journée à faire les règles en anglais, puis rethématiser sur un cambriolage. On se passe des cartes de visite au lieu de se passer des jeux de société. Et puis, il me rappelle en me disant, ben, l'Allemagne est à fond. Je me suis même fait engueuler de ne pas l'avoir envoyé plus tôt. Et là, en fait, j'ai une goutte de transpiration parce que je me dis, en fait, c'est un peu particulier, quoi. Casper Lab a fait son jeu, c'est son jeu à lui. J'ai pas envie de passer pour... Enfin, moi, j'ai pas voulu ça, en fait. Donc, je l'ai tout de suite appelé, je l'ai tout de suite envoyé des mails en disant, bah, il se passe ça, je suis désolé, je suis mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, même si tu veux le faire toi et on dit que c'est toi, je m'en fous, moi. Parce que j'avais pas du tout envie que ça soit mal pris. Et puis, je pense que c'est pas une bonne pratique, en fait. Quand quelqu'un a un concept, tu vas pas aller proposer à l'éditeur sans lui en parler, puis que l'éditeur dise, bah, ok, on fait ce que l'autre a dit, quoi. Et en fait, il était à fond, il dit non, c'est cool, pas de souci. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, et visiblement, c'est un peu le cas. Et donc, voilà, et les tours vides après, ben, il y avait un contrat avec Ravensburger. Donc ça a aussi bénéficié de relations avec des gens comme Bruno Catala, en fait, parce que tu vas très vite à l'essentiel, en fait. Ok, c'est 2 jours de boulot, ce truc-là, mais c'est aussi parce que t'as passé beaucoup de temps à regarder le milieu, à voir comment les choses résonnent. Si des gens comme Bruno arrivent à faire 10 jeux par an, c'est parce qu'ils ont une expérience derrière eux qui est monstrueuse et tout va plus vite parce que c'est tout plus évident. Et ça contrastait un peu avec ce que je fais d'habitude. D'habitude, je signe un jeu qui est un peu un projet, après je passe 5 ans dessus, comme bosser comme un débile. Et là, j'avais un jeu qui sort, waouh. En tout cas, Ravensburger, c'est pareil. Hein. J'ai commencé avec Space Cowboy, Ravensburger, Yellow. Enfin, je suis hyper content. Blame aussi, ce qu'ils font, c'est fou, l'approche qu'ils ont. Fin. Et en fait, c'est vrai que tout le milieu est un peu comme ça. C'est vraiment un plaisir d'essayer de faire partie de ce milieu-là. Quoi.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de Sherlock Holmes, Détective Conseil.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont inspiré jusqu'à présent ? Ou des auteurs en particulier qui t'ont inspiré ? Tu parlais de Bruno Catala, mais...
Ouais, bah, dans les jeux d'enquête pure, c'est quand même celui-là. Et après, très vite, Détective. ou détective, ça a été une claque monstrueuse parce que moi, ouais, j'essayais de moderniser un peu ce qu'était Sherlock Holmes, détective conseil, et détective carré. Alors ils ont l'ordi, ils ont tout ça, ils ont, et eux, c'est plutôt une campagne, et... mais on l'a joué, on a été transcendé, quoi. Et le problème de ça, c'est que tu recherches d'expérience maintenant et on le retrouve plus aujourd'hui. Enfin, moi, je retrouve moins ces jeux qui te retournent la table, quoi. Il y en a eu beaucoup. Alors c'est peut-être aussi quand tu commences à rentrer dans le milieu, mais Unlock a fait ça, détective Sherlock Holmes, il y en a plein. Et sur les auteurs, ça dépend des jeux, ça dépend de plein de choses. Là, j'essaye de faire un peu plus d'autres choses que du narratif, mais ça dépendra vraiment des... Chaque type de jeu, pour moi, c'est king, quoi. Et dans l'enquête, c'est Dave Neil. C'est sûr, l'anglais Dave Neil qui a fait la boîte verte de Sherlock Holmes Détective Conseil, qui a fait deux cernes de Dunlock de Sherlock Holmes, qui est hyper fort et qui a fait aussi les animaux de Baker Street, qui est... Tout ça, c'est des perles, oui. Enfin, entre autres, parce qu'il en a fait énormément. Et pour moi, ouais, c'est le meilleur auteur d'enquête au monde aujourd'hui. Et à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait aussi Stéphane Anquetil qui était assez actif sur le jeu d'enquête. Et pareil, ben, quand j'ai signé Yellow, le premier truc que j'ai fait avant de signer, je l'ai appelé lui, quoi. Pour dire, OK, ben, bonjour, j'ai signé ce truc-là. Je veux pas signer, je veux pas casser le marché parce que moi, genre, je suis médecin et je m'en fous. Et si jamais on me propose des droits d'auteur tout pourris, j'ai pas envie que toi qui essayes d'en vivre, t'en souffres. Et puis, on est assez vite devenu proche et puis on s'appelait et puis tout ça et donc c'est tout des gens comme ça parce que je me suis quand même beaucoup spécialisé dans l'enquête et dans la narration, mais il y a pas que ça, hein, il y a tous en fait, tous, n'importe qui, des Bokara qui fait des jeux de party games, bah en fait, bah ça t'inspire quelque part sur certains trucs, quoi. Tout le monde t'inspire sur même sans le savoir, c'est aussi pour ça que je viens, pour jouer à plein de trucs, pour m'inspirer un peu de tout le monde et de tout ça, quoi. L'influence, elle est de partout, quoi. Ça, c'est sûr.
Tu trouves encore le temps de jouer?
Bah, beaucoup, ouais. Quand je viens sur le salon, moi, comme je j'ai pas de plein de protos avec plein de rendez-vous, je fais que jouer, là. Là, je me promène et je joue.
Mais le salon, là, c'est une fois par an.
Ouais, c'est vrai.
En dehors de ça, t'as quand même le temps de jouer.
Ouais.
Tu trouves encore le plaisir et le temps de jouer?
Ah, le plaisir, c'est sûr. Et après, ben, sur des week-ends ou sur, ouais, et puis, bah, j'ai beaucoup de groupes de joueurs autour de moi, même si j'habite pas en grande ville, on arrive à jouer à beaucoup de choses, et puis voilà, mais pas assez, c'est sûr, quoi. Donc là, j'ai une petite de 5 ans, que j'essaie quand même de faire un peu de médecine. Ouais, le temps, tu le prends sur la nuit, quoi. Des fois, tu joues à des jeux parce que c'est des jeux narratifs, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de le décrypter. Tu joues aussi, des fois, de façon un peu pro pour faire de la veille ou pour tout ça, mais.
Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Ajouter, ben j'en sais trop rien. Moi, j'avoue que je suis hyper content d'être là. Je vois bien que le milieu devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en plus, il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a tout ça, et que c'est compliqué pour des auteurs qui jouent à temps plein de se projeter sur 2-3 ans. Et c'est un peu des débats qu'il y a beaucoup en ce moment sur comment je vais pouvoir me projeter, ouais, si je peux vivre du million du milieu du jeu. Donc j'ai réussi à organiser ma vie, moi, pour que ce soit pas trop un souci, mais j'ai bien conscience d'avoir une chance pas possible, en fait, d'avoir la sensation de faire partie d'une grande famille et d'apporter un peu ta brique. Et donc t'as qu'une envie, c'est de pas décevoir les gens, en fait. Et donc tu mets beaucoup plus d'énergie, peut-être un peu trop, à tes projets, quoi. T'as envie à la fin que ta ludographie, elle soit, t'en sois content, quoi. C'est pour dire que je vis un truc éveillé, quoi. Et puis l'objectif, c'est que ça dure, donc faut quand même que les jeux se vendent. Donc tu te dis, OK, je fais pas que mes trucs dans ma chambre, faut aussi que ça se vende pour que les éditeurs continuent de suivre et puis que tu gardes l'énergie aussi. Moi, l'objectif, c'est plus pouvoir continuer à faire mes petits trucs dans mon coin, dans ma chambre, et que derrière les gens aient encore envie de me suivre là-dessus, quoi. Voilà.
Et quand tu fais justement ces petits trucs dans ta chambre, est-ce que tu penses au joueur ou à la joueuse qui va recevoir tes jeux et qui va jouer à tes jeux?
Je pense que j'ai une approche un peu plus égoïste que pas mal d'auteurs. En tout cas, moi, j'adore ce moment où quand tu fais de la documentation sur certains jeux, tu vas mettre des post-it partout, tu fais de la recherche, tu sais pas pourquoi, en fait, et il y a que le haut de l'iceberg qui va être retenu, mais sur ton tableau, t'as des machins partout. Et là, comme dans un film, t'as tout qui se met en place. Et par un peu par magie, quoi. Et là c'est des moments un peu dingo, et donc ces moments-là, tu les recherches. Je pense qu'au début, c'est déjà un peu égoïste d'essayer de retrouver ces moments-là, de trouver des petits mécaniques, des petits machins. Et après, ben quand tu fais des tests et tu vois que ça marche, là, ouais, c'est quand même assez fou, hein. Mais initialement, en fait, j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 5 ans, je fais de la narration interactive sur l'ordi, sur tout ça, pour mes frères, pour rien, pour voilà, où ça finissait nulle part. Donc en fait, je pense que je le ferais même s'il y avait pas de joueurs. En fait, c'est juste un plaisir de le faire. Et c'est un peu égoïste peut-être, mais c'est ça. Et ce qui fait que je suis pas trop affecté par le fait qu'un jeu va moins marcher qu'un autre, en fait, que je suis déjà passé à autre chose. Je le fais pas pour avoir une récompense ou un gros, des gros scores de vente. Je veux juste continuer à écrire mes petites histoires, quoi. C'est ça l'idée.
Merci beaucoup, Johan, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
Ben, merci à vous. Ouais, je pense que c'était bien intéressant. Maintenant, ça fait plaisir d'être là puis de partager parce qu'on passe notre vie un peu, c'est un milieu solitaire, quoi, la vie d'auteur. Et donc, là, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, quoi.
Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.